Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. Nous lirons les versets 13 à 23. 1 Samuel 16, versets 13 à 23. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Nous avons hier soir essentiellement introduit notre sujet. Nous avons considéré la personne de David, son importance au travers des Écritures. Et nous nous sommes arrêtés notamment sur le fait que David a connu un itinéraire tout à fait particulier en relation avec la royauté. Nous avons lu les 13 premiers versets de ce chapitre 16 qui indiquent les circonstances dans lesquelles David a connu une première onction royale. Mais nous avons aussi remarqué qu'au début du deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 4, nous avons une seconde onction royale de David. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y en a une troisième, quelque temps plus tard, au chapitre 5 et au verset 3. Trois onctions. Trois onctions étalées sur environ 18 ans. Première onction alors que David était peut-être âgé, on suppose, d'une vingtaine d'années. La seconde onction, où il nous est dit très nettement qu'il était âgé de 30 ans. Et la troisième onction alors que David est âgé de 37 ans et demi. Entre la première et la deuxième onction se situe un temps de formation de David, très important. Et c'est essentiellement cette période qui nous intéresse, celle qui se situe entre la royauté en devenir et la royauté dans son fonctionnement. Ensuite, nous avons remarqué que même lorsque David a commencé à régner, il n'a pas d'abord régné sur l'ensemble d'Israël, mais pendant 7 ans et demi sur le territoire de Juda. Et c'est au bout de ces 7 années et demi que Dieu alors lui a donné le feu vert en quelque sorte, et qu'il a pu régner pendant 33 ans encore sur l'ensemble du territoire d'Israël. Nous avons établi une analogie, un parallèle si vous voulez, avec notre vie, à savoir que au moment où le Saint-Esprit se saisit de nos vies, nous empoigne, nous naissons de nouveau, nous passons par la régénération. Et en entrant dans le corps de Christ, nous sommes associés à ce que, par exemple, la première épître de Pierre appelle un sacerdoce royal. Nous devenons les enfants du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Nous sommes des rois, en quelque sorte. Mais notre conduite n'est pas encore celle des fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Nous sommes sur un chemin d'apprentissage. Et il existe dans la vie de tout disciple de Christ un temps de formation de base qui est absolument fondamental, de manière à ce que véritablement nous vivions à la hauteur de notre nouvelle condition d'enfant du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et cela ne se fait pas tout seul. Et vous le savez certainement aussi bien que moi, nous sommes à une époque où on aime les raccourcis. Nous en parlerons d'ici dimanche matin. On n'aime pas ce temps de formation avec ses énigmes, avec ses moments difficiles, comme nous allons le voir. Et pourtant, avec Dieu, il est impossible de brûler des étapes. Alors nous allons ce soir vraiment entrer dans le vif du sujet, en nous souvenant que dans cette histoire des chapitres 16 à la fin du premier livre de Samuel, nous sommes en face de deux jeunes hommes. L'un plus âgé que l'autre, certes, mais deux hommes jeunes, pleins de promesses au départ. David, d'une part, et Saül, d'autre part. Pourtant, Dieu, avec souffrance, devra rejeter l'un des deux, Saül, alors qu'il accompagnera merveilleusement l'autre, David, jusqu'à la fin de sa vie. Et il est beau d'entendre, par exemple, David dire à la fin de sa vie, dans un témoignage émouvant, « L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. » Dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er et au verset 29. La particularité de David, c'est que l'Éternel était avec lui. L'Éternel l'accompagnait, marchait à ses côtés, le bénissait. Certes, il y a eu des moments difficiles, une éclipse très douloureuse, nous en sommes entretenus hier soir, mais dans l'ensemble, nous remarquons une présence vivante et agissante de la part de Dieu auprès de David. Et puis Saül. Saül, avec une lacune fondamentale, un manque d'obéissance, un esprit d'indépendance à l'égard de Dieu, un orgueil sournois, se développant comme un cancer aux multiples métastases. Le refus de la discipline de Dieu, de la croix, de l'apprentissage de la dépendance de Dieu, de l'amour de la vérité dont nous nous sommes beaucoup entretenus hier soir. Aimer la vérité. David avait cette particularité d'être, certes, un jeune homme pécheur, mais assoiffé de Dieu, assoiffé d'intégrité, de droiture de cœur, prêt à se laisser former, transformer, briser, édifier. Alors Dieu l'a façonné. Dieu l'a façonné pendant 10 années dans les domaines fondamentaux de la vie. Précisément dans le domaine de la droiture de cœur, de la dépendance, de la vie de prière, du fruit de l'esprit, l'apprentissage du pardon, de l'obéissance. Et David ainsi a pu servir ensuite le dessein de Dieu et accomplir toutes les volontés de Dieu. Si vous vous êtes penché, en vous préparant peut-être, pour ce temps de ressourcement, si vous vous êtes penché sur l'histoire de David dans ses chapitres 16 à 30, vous avez constaté une chose. C'est que David a connu, durant ses 10 années de formation, des temps extrêmement difficiles. La grande note qui se dégage de ces 10 années d'une période de la vie qui est tout de même une période cruciale entre 20 et 30 ans, ces 10 années dégagent toute une dimension de souffrance. Et nous voulons souligner ce soir, et nous allons le voir, que la souffrance est une école vers la maturité spirituelle. Ah, nous n'aimons pas cela. Cela nous dérange. Et pourtant, c'est vrai. La souffrance est une école de formation de l'homme spirituel. Pas de vraie croissance sans souffrance. D'ailleurs, la nature nous le crie. Elle est jolie, la nature, en ce moment, dans ses premières teintes du printemps. Ses couleurs sont belles, n'est-ce pas ? Est-ce que nous réalisons toute la souffrance qui se cache derrière le processus qui a amené à ce résultat ? Nous l'oublions. La nature nous crie en permanence un message essentiel au cœur de Dieu. Il n'y a pas de développement de l'homme spirituel, il n'y a pas d'authentique croissance en profondeur, je dirais autant qu'en hauteur, parce que c'est cela l'essentiel. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. Quelqu'un a écrit ceci: j'ai parcouru 1000 aux côtés du plaisir. Qu'il était donc bavard. Il babillait sans cesse. Mais il ne m'est resté ni savoir ni sagesse de tous les beaux discours dont il crut m'éblouir. J'ai parcouru 1000 aux côtés du chagrin. Tout au long de la route, il resta bouche close. Cependant, ô combien il m'enseigna de choses, tandis que nous étions tous les deux en chemin. J'ai relevé, il y a déjà pas mal de temps, cette définition du diamant, qui est une définition tout à fait authentique, même si elle a un côté quelque peu poétique et littéraire, elle n'en est pas moins scientifique, à savoir qu'un diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Nous avons besoin de contraintes pour pouvoir devenir des joyaux sur la couronne de notre Dieu. Or, nous sommes dans un temps où l'homme considère la souffrance comme une ennemie. Il y a un antagonisme extrêmement fort entre l'homme et la souffrance, dont certains messages sont inacceptables. C'est Kierkegaard qui n'est pas à conseiller dans bien des domaines de la foi, loin de là. Kierkegaard qui a dit ceci, « L'homme peut réaliser des exploits étonnants et acquérir un savoir étendu. Il ne se comprend pas pour autant lui-même. Mais la souffrance conduit l'homme à regarder au-dedans de lui. S'il y réussit, alors là, en lui, se trouve le commencement de son apprentissage. » Et nous allons, d'ici dimanche, essayer ensemble de comprendre tout ce que David a appris il y a si longtemps par le biais d'un chemin très difficile et qui a fait de lui, à son époque, avec les lumières spirituelles qui étaient siennes, un homme véritablement spirituel. Et nous le verrons, ce qui est beau dans l'histoire de la formation de David en tant qu'homme spirituel, c'est que David n'a pas cédé aux pressions extérieures de ses plus proches qui voulaient diminuer, raccourcir le temps de la formation. À plus d'une reprise, David a été tenté de mettre fin à la vie de Saül. Et chaque fois, Dieu l'a retenu. David n'a pas escamoté cette dimension essentielle en vue d'une maturité et d'une stabilité spirituelle. Comme la séance de boxe avait été particulièrement rude, l'apprenti boxeur demanda ingénument à son maître, « Vous ne donnez pas des cours par correspondance, par hasard ?» Il y a des moments où nous sommes tentés de poser une telle question à Dieu. « Est-ce que tu ne pourrais pas me donner quelques cours par correspondance pour croître en maturité plutôt que de me faire passer par des chemins qui sont de véritables casse-têtes chinois pour ma vie personnelle. » Il n'y a pas de raccourci, nous le redirons souvent. Alors, nous allons nous poser ce soir une question qui est importante et qui va nous permettre de mieux saisir encore tout le relief de ces chapitres 16 et suivants du premier livre de Samuel. Cette question est la suivante. Quels sont les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans la souffrance? Et quand je dis souffrance, je parle de souffrance sous toutes ses formes. Je ne veux pas parler d'une manière particulière de la maladie ou privilégier une forme de souffrance par rapport à une autre. Non. Les circonstances contraires, les contretemps, tout ce qui crée en nous, d'une manière ou d'une autre, une souffrance, de quelque ordre que ce soit, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau physique. Toutes nos circonstances. Quelqu'un écrit très justement, à partir de l'instant de votre conversion, le diable vous inscrit dans son carnet d'adresse. C'est vrai. Tous ceux qui sont au Seigneur, et nous sommes nombreux ici ce soir à l'être, se souviennent que quand ils se sont tournés vers Jésus-Christ, les combats n'ont pas tardé. La lune de miel a été brève. Et ils ont même parfois été désarçonnés parce qu'ils étaient tentés de penser qu'ayant donné leur vie à Jésus-Christ, désormais le chemin allait être couvert de pétales de roses et d'odeurs de doux parfums. Quelle déception! Quels sont donc les rôles respectifs de Dieu et de Satan dans les difficultés que rencontre le disciple de Christ sur sa route?
La réponse est dans un petit mot grec. Pas dans un petit mot français. J'aimerais bien qu'elle soit dans un mot français, mais il se trouve qu'elle n'est pas dans un mot français. Vous allez voir pourquoi, ce ne sera pas compliqué. Elle est dans un petit mot grec, tout simplement parce que ce petit mot grec, présent dans le Nouveau Testament, a cette particularité, comme beaucoup d'autres mots grecs, de pouvoir se traduire de deux manières différentes. Ce mot grec peut se traduire d'une part par le mot français « épreuve », mais d'autre part par un autre petit mot français « tentation ». Épreuve, tentation, un seul mot grec. Et c'est un problème, comme nous allons le voir. Nous pouvons donc comparer la souffrance, puisque qui dit épreuve et qui dit tentation sous-entend inévitablement des souffrances. Il n'y a pas d'épreuve sans souffrance, il n'y a pas de tentation qui ne se traduise en souffrance, ne fût-ce que pour lutter contre la tentation. Nous considérons ce soir, par image, que la souffrance est un peu comme cette pièce de monnaie. Que de souffrance d'ailleurs, à cause des questions d'argent. Et la souffrance a donc, si vous voulez, d'après ce que dit le mot grec, évoqué il y a un instant, un côté pile et un côté face. Un côté pile épreuve, un côté face tentation. Alors maintenant, il faut que nous définissions, d'une part, le côté pile épreuve, d'autre part, le côté face tentation. Que dit la Bible sur ces deux dimensions, sur ces deux facettes de cette même pièce de monnaie qui s'appelle la souffrance. Alors nous avons tout d'abord un texte très fort dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 12 à 15. Jacques, chapitre 1er, verset 12 à 15. « Heureux l'homme, nous dit ce texte, heureux l'homme, qui supporte ou qui endure, ce qui est encore mieux, patiemment la tentation. » Nous nous souvenons que c'est donc notre petit mot grec. Il est là, tentation. « Car après avoir été éprouvé, alors faisons attention, ici ce n'est pas notre mot grec, même si c'est un mot de la famille d'épreuve. Nous pourrions ici remplacer le mot « éprouvé » par « tester ». C'est un autre mot dans le texte grec. Passer un examen pour aller dans la classe supérieure. Être testé, n'est-ce pas ? Donc, car après avoir été testé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et puis ensuite, il y a une petite précision d'importance qui sous-entend qu'il y avait dans l'esprit des croyants auxquels s'adressait Jacques, de la confusion. Que personne, lorsqu'il est tenté, c'est à nouveau notre petit mot, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, par ses propres désirs coupables qui appartiennent à son moi irrégénéré et qui ne sera jamais lui régénéré d'ailleurs. Puis, les désirs coupables, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Une précision est importante ici, elle est toute simple, elle est limpide. Dieu ne tente jamais. Dieu ne tente jamais. Il manque pourtant un élément capital dans ce texte. Je suis persuadé que Jacques ne l'a pas indiqué, parce que l'épître est très pratique, et que Jacques, dans cette épître, conduit par le Saint-Esprit, veut engager les croyants à une saine activité. Alors il ne veut pas que les croyants prennent l'habitude de tout mettre sur le dos du diable. Parce que c'est facile. Et il existe, même à l'heure actuelle, tout un courant évangélique qui a tendance un peu à faire la part trop belle au diable, ce qui déresponsabilise le croyant. On peut attribuer toutes sortes de problèmes dans nos vies au diable, ce qui nous évite de faire l'effort de marcher dans la bonne direction conduite par le Saint-Esprit. Alors ici, effectivement, le diable est absent. Mais il est sous-entendu dans le texte, parce qu'en réalité, c'est lui le concepteur. Il manque, si vous voulez, le père pour que le fruit puisse être issu d'un mariage. Il est question ici d'un enfantement, il y a une conception, mais il manque le père. Et le père, ici, c'est le diable. Et en fait, nous savons que c'est Satan qui permet la conception du péché. C'est lui qui est donc à l'origine de la tentation. C'est lui qui utilise nos désirs coupables, les désirs de la chair. J'aime utiliser cette expression de la maréchale Booth, l'hippopotame moi, parce que nous comprenons très bien ce que ça veut dire dans nos vies, ce qui nous chatouille intérieurement trop souvent, hélas. Et le diable utilise donc cet hippopotame-moi, ce moi non régénéré, pour nous amorcer, pour nous conduire à la mort. Parce que le but de la puissance des ténèbres est la méchanceté. Satan vise la destruction, la chute, la mort, l'enfer. Et nous savons donc que tenter, c'est mettre à l'épreuve. Mais c'est mettre à l'épreuve de manière négative. Quelqu'un nous veut du mal. Et parce qu'il nous veut du mal, il nous met à l'épreuve dans notre force morale, ceci dans le but de nous faire succomber. La tentation est une épreuve dans le sens d'une sollicitation au mal. Il y a là toute une dimension négative. Voilà pour une première définition. Nous sommes au clair sur un aspect de notre pièce souffrance. Le rôle de Satan dans le domaine de la tentation. Épreuve dans le sens négatif. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu éprouve. Dieu met à l'épreuve. Nous avons un texte royal, cardinal, fondamental dans l'Ancien Testament sur ce thème. Il s'agit de l'épreuve suprême de la foi de celui qui est appelé dans l'Épître aux Romains le père des croyants, à savoir Abraham. Genèse, chapitre 22, verset 1er, lorsqu'il est dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il est intéressant de constater que le début de l'Épître de Jacques parle du même thème, puisqu'au verset 2, se trouve un verset que nous avons toujours beaucoup de peine à avaler jusqu'à ce que nous ayons compris certaines dimensions de la maturité et de la maturation spirituelle. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et ici, ce n'est pas le mot test, c'est notre fameux mot unique traduit un peu plus loin au verset 12 et 13 et 14 par le mot tentation, le même mot. Or ici, nous avons une optique tout à fait différente, n'est-ce pas? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer, sachant que le test, autre terme, l'épreuve, mais le test ici de votre foi produit la patience, ou plutôt la constance, l'endurance, la ténacité qui tient le choc, qui tient le coup, qui tient bon sous les difficultés, selon l'étymologie du terme. Dieu éprouve. Il met à l'épreuve, mais il le fait pour amener son enfant à un choix qu'il désire positif.
Dieu veut faire du bien. Dieu veut construire, purifier, bénir. Ceci par des circonstances et des situations qui, c'est vrai, sont souvent encourageantes, bienfaisantes. Nous sommes heureux de certains types de bénédictions, mais aussi, bien souvent, par des situations de dépouillement que nous sommes tentés de ne pas vouloir appeler bénédiction, parce que nous avons une conception très humaine de la bénédiction et du succès dans notre marche avec Dieu. Dieu vise le ciel. Dieu vise le ciel parce qu'il nous aime. Et là, à cause de la confusion qui devait régner dans l'esprit de certains croyants, Jacques a trouvé bon de préciser la chose très fortement au verset 16 de Jacques 1. « Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et parmi ces grâces excellentes et ces dons parfaits figurent aussi des grâces que nous ne trouvons pas excellentes et des dons que nous ne trouvons pas parfaits, mais qui nous viennent bien de lui. Qui nous viennent bien de lui. Alors, résumons ce que nous avons essayé d'expliquer jusqu'ici. Chaque épreuve a inévitablement une dimension de tentation. Vous êtes d'accord? Quand Dieu nous éprouve, c'est-à-dire qu'il veut nous faire grandir, qu'il veut développer notre foi, le fruit de l'esprit, etc., n'est-ce pas? Quand il veut développer le caractère et les œuvres de son Fils Jésus-Christ en nous, il nous éprouve. Mais à l'affût se trouve la puissance des ténèbres qui va essayer de faire tourner l'épreuve en chute. N'est-ce pas? Il va se servir de l'épreuve pour nous tenter. C'est-à-dire, tu vois, la situation dans laquelle tu es, regarde un petit peu comment ton Dieu s'occupe de toi, tu ferais mieux de rester comme les autres, d'être un païen, eux n'ont pas les problèmes que tu as, etc. N'est-ce pas? Donc, dans chaque épreuve, il y a une dimension de tentation parce que le diable essaye à tout prix de s'emparer de cette épreuve pour qu'elle ne soit pas une bénédiction. Et de l'autre côté, dans chaque tentation, il y a une dimension d'épreuve. Quand le diable nous tente, Dieu est au travail, de manière à ce que cette tentation, nous en soyons vainqurs, et qu'en étant vainqueurs, nous grandissions un peu plus dans notre marche avec Jésus-Christ. Toute épreuve a une dimension de tentation, toute tentation a une dimension d'épreuve. D'où un seul mot dans le texte grec, mais qui nécessite une explication pour nous au travers des Écritures. Alors, une question se pose. J'ai sorti cette pièce de ma poche. Et au préalable, en fin d'après-midi, de mon porte-monnaie. La souffrance. Avec ces deux facettes d'épreuve et de tentation, dans quelle poche se trouve-t-elle? C'est là une question fondamentale pour le développement de l'homme spirituel. Et là, les Écritures sont extrêmement claires. C'est Dieu qui possède la pièce. Elle est dans la poche de Dieu. D'une part, il éprouve positivement. D'autre part, il autorise, il permet et il contrôle la tentation. Et cela va nous faire énormément de bien. Alors pourquoi vous ai-je dit tout cela? Parce que nous allons maintenant appliquer ceci à la formation de David en tant qu'homme spirituel. Si j'étais producteur de films, voire metteur en scène, j'aimerais réaliser un film qui ne soit consacré qu'au chapitre 16 à 30 du premier livre de Samuel. Et je l'intitulerai « La guerre des deux trônes ». La guerre des deux trônes. Ce serait un film palpitant. Un film qui, par bien des côtés, accrocherait le monde d'aujourd'hui, surtout ceux qui aiment l'action, les risques. Tout simplement parce qu'une analyse soigneuse des textes nous indique qu'il y a peut-être eu, en tout cas au moins, une dizaine de tentatives d'assassinat de David par Saül durant cette dizaine d'années. Ce fut une période très difficile pour David, le dernier de cette grande famille de 8 garçons. Il semble que les petits derniers soient souvent protégés. En tout cas, lui n'a pas été épargné. Et pendant 10 ans, on assiste dans ces chapitres à la lutte du roi selon la chair, selon le cœur des hommes, du roi déchu contre le roi selon le cœur de Dieu. Lutte de la chair contre l'esprit. Lutte de Saül, le charnel, lutte à mort même contre ce qui est spirituel en David. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir le crescendo de la haine absolument épouvantable de Saül à l'égard de David. Prenez avec moi dans 1 Samuel 18, par exemple. Nous allons lire un ou deux échantillons simplement. 1 Samuel 18, les versets 8 à 15. Saül fut très irrité, cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1 000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Versets 28-29 du même chapitre, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 7, il est dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et nous avons là en doctrine le même message que celui que nous venons de lire. Galates 4, 29, il est question du conflit entre Ismaël, le fils de l'effort propre, et Isaac, le fils de la promesse, de la grâce, de l'esprit. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous avons dans ce récit une démonstration des siècles à l'avance du message de l'Épître aux Romains dans ses chapitres essentiels, stratégiques, 6 à 8. Qui se cache derrière Saül. Qui se cache derrière Saül? Alors bien entendu, ça va de soi, lorsqu'on lit la Bible en tant que jeune croyant, sérieusement peut-être pour la première fois, et qu'on lit cette histoire, on est en colère. Et Saül, manifestement, n'a pas la cote. C'est un homme de plus en plus épouvantable, c'est un assassin, c'est un meurtrier, enfin c'est tout ce qu'on veut. Et bien entendu, derrière lui se cache Satan. Et le but du diable, se servant de Saül, c'est d'éliminer David ou de lui faire faire une faute qui va le disqualifier à jamais. Puisque David, nous l'avons vu hier soir, est un maillon extrêmement important dans cette chaîne qui conduit, dans cette lignée, n'est-ce pas, du peuple élu, qui conduit à la personne de Jésus-Christ. Et tout au long de l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de la royauté, en permanence, nous avons une lutte terrifiante de la puissance des ténèbres contre cette ligne élue pour essayer à tout prix de briser cette chaîne en coupant l'un ou l'autre de ses maillons de manière à ce qu'on ne puisse aboutir à la venue de Jésus-Christ. Comme David est un des maillons les plus stratégiques, nous l'avons vu, Jésus-Christ, le fils de David, selon l'homme, n'est-ce pas, par descendance humaine, et le Seigneur de David, en tant que Dieu et fils de Dieu, alors l'ennemi va s'acharner d'une manière plus particulière sur David. Mais est-ce qu'il est suffisant de s'arrêter là? Et si nous disions simplement ce soir que Dieu est à l'origine première de la situation de David durant ces années difficiles? Tout simplement parce que Saül est en réalité l'instrument de Dieu. Non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair et pour former peu à peu en David l'homme spirituel. Et à la lecture de ces chapitres, j'ai le sentiment, comme on le voit d'ailleurs ailleurs dans les Écritures, que le raisonnement de Dieu, si on peut le dire, avec tout le respect que nous devons à Dieu, mais le raisonnement de Dieu semble avoir été celui-ci, ben, puisque Saül, tu ne peux plus servir librement, avec joie, à l'accomplissement de mon plan, tu serviras quand même. Tu serviras malgré toi à quelque chose, même au sein de ta déchéance progressive. Et ces chapitres 16 à 30 du premier livre de Samuel représentent pour moi une illustration absolument extraordinaire de la souveraineté de Dieu qui se sert même de celui qui est désobéissant malgré lui pour accomplir son plan. Dieu se sert de Saül, le charnel, pour combattre le Saül qui est caché dans le cœur de David. Tout simplement parce qu'il y a un Saül qui est caché dans chacun de nos cœurs. Il y a un Saül qui est caché dans chacun de nos cœurs. Oh, nous pouvons nous reconnaître dans certaines des attitudes de Saül, dans certaines de ses réactions. Et il est évident que David avait en face de lui, oh bien sûr, en immensément grand, ses propres problèmes. L'état, par certains côtés, de son propre cœur. Et il fallait, pour que David puisse régner et connaître un règne différent de celui de Saül, qu'un certain nombre de problèmes fondamentaux soient réglés dans sa vie. Alors vous me direz, mais quelles sont les preuves de ce que vous avancez? Eh bien, les preuves sont éloquentes. Nous les avons lues ensemble, nous les relisons. 1 Samuel 16, versets 14 et suivants. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. Le mauvais esprit venant de Satan sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Pourquoi est-ce que vous riez comme ça?
Qu'ai-je donc dit de travers ce soir? J'ai dit Satan? Ah, excusez-moi. Alors je reprends la lecture? D'accord. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ah, mes amis, je peux vous dire ce soir le nombre de personnes qui sont venues me voir après de telles études en me disant, frère ou monsieur Decker ou je ne sais pas quoi encore, ça fait 30 ans que je cherchais la réponse. Parce que pendant toutes ces années, ce texte m'est resté en travers du gosier. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais esprit qui vient de l'Éternel? Alors, si encore cette expression ne figurait qu'une fois dans le texte, à la rigueur, quelqu'un pourrait dire « Oh, mais ça, c'est une faute de copiste. » Le problème, c'est que ça ne figure pas deux fois, pas trois fois, mais six fois. Six fois en l'intervalle, en l'espace de quelques chapitres, puisque vous trouvez un peu plus loin, à la fin du chapitre 16, n'est-ce pas, verset 23, « Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur lui. » Et puis, si vous allez au chapitre 18 et au verset 10, « Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. » C'est intéressant. Dieu insiste. Le Saint-Esprit vraiment a insisté pour bien peser sur cette précision. Alors, je ne crois pas que ce soit une tournure de langage. J'ai hélas lu de très bons livres évangéliques, dont un que j'ai beaucoup apprécié, sur la question des maladies mentales, écrit par un digne psychiatre, mais pardon de le dire, il a beau être psychiatre, il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que Dieu, que je sache, est tout de même meilleur psychiatre que les psychiatres de tous les temps, lui qui a créé l'homme et qui sait très bien comment il fonctionne. Et s'il ne s'était agi dans ce texte que d'un dysfonctionnement cérébral avec toutes ses répercussions physiques et autres, croyez-moi, Dieu aurait été suffisamment sage pour exprimer ce texte en d'autres termes. Ce que Dieu a parfaitement su faire dans d'autres cas des Écritures. Je n'aurais donc pas l'outrecuidance, l'audace orgueilleuse de dire que oh, c'était simplement parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la terminologie et le mécanisme psychiatrique comme on le connaît aujourd'hui. Alors, on exprimait ces maladies en des termes qui sont inacceptables aujourd'hui. Méfions-nous, mes amis. Méfions-nous ici du rapt trop facilement effectué au nom de la science dans le domaine psychologique et autres, du rapt de la vérité des Écritures. Nous devons rechercher et examiner toutes choses à la lumière des Écritures et non pas verser les Écritures dans le moule de la psychiatrie et de la psychologie qui ont des côtés très valables. Il faut faire un tri, retenir ce qui est bon comme en toute autre chose, mais nous devons toujours examiner l'enseignement qui nous est donné dans tel ou tel domaine à la lumière des Écritures. Et quand quelqu'un, quel que soit son titre et sa réputation, attribue à Dieu ce qui n'est pas de Dieu, nous devons nous incliner devant la personne de Dieu et refuser de donner caution à la personne la plus digne qui soit à nos yeux, n'est-ce pas ? Il est clair qu'ici, il s'agit d'un mauvais esprit venant de Dieu. Même si cela se traduit dans l'expression ensuite de Saül par des attitudes qui rejoignent des problèmes de type psychiatrique. C'est évident. Mais à l'origine, il y a un mauvais esprit venant de Dieu. Tout simplement parce que Saül est en réalité l'instrument de Dieu, non pour faire tomber David, Si nous avions eu chaque fois un esprit venant de Satan, nous n'aurions vu que l'aspect d'hostilité de Saül vis-à-vis de David. Ce que nous avons tendance habituellement quand nous lisons ce texte en TGV, n'est-ce pas ? Mais lorsque nous nous laissons arrêter par cette expression « un mauvais esprit venant de Dieu », alors nous nous interrogeons. Et le texte nous interpelle et le Saint-Esprit nous demande de commencer à apprendre à lire ce texte d'une manière plus positive. Et à dire qu'en réalité, Saül est l'instrument de Dieu non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair et pour former peu à peu en David l'homme spirituel. Nous l'avons dit. Puisque Saül ne veut plus servir avec joie l'accomplissement des desseins de Dieu, il servira malgré lui à accomplir les desseins de Dieu. Dieu se sert de Saül le charnel pour combattre le Saül tapis dans le fond du cœur de David, je le répète bien volontairement. Alors comment expliquer de manière plus pointue cette expression qui revient 6 fois exactement dans notre texte? Eh bien, nous savons par les Écritures que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu. Et ce mauvais esprit était donc autorisé directement par Dieu à s'emparer de Saül comme jugement. Vous aviez Dieu, vous aviez le diable et vous aviez Saül. La relation la plus proche était entre Saül et la puissance des ténèbres, mais derrière se trouvait le divin contrôleur. Celui qui dirigeait absolument tous les événements, le Dieu parfaitement suffisant, contrôlant de manière absolument remarquable. Ce n'est pas le seul texte qui dise ces choses. Prenons 1 ou 2 exemples rapidement. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er. Nous avons là un des autres moments très difficiles de David et du peuple d'Israël, d'ailleurs, tombant dans l'orgueil. Et il nous est dit, donc, dans 1 Chronique 21, verset 1, « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Alors nous gardons cette page, nous avons bien remarqué, il est dit que Satan se lève contre Israël et excite David à faire le dénombrement. Tout en gardant cette page, pour la retrouver facilement, vous allez à 2 Samuel 24, verset 1er. 2 Samuel 24, verset 1er. Il s'agit du même événement, des mêmes circonstances, tous les recoupements le prouvent, il est impossible de considérer là qu'il y ait eu 2 événements distincts, surtout que c'était un fait très grave. Et le chapitre 24, qui narre cet événement, commence par ces termes, la colère de l'Éternel, tiens, t'as vu la différence ? C'est pas Satan. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». D'un côté, c'est la colère de l'Éternel qui éclate, c'est lui qui excite. Et de l'autre, pour le même événement, c'est Satan qui se lève contre et qui excite. Deux textes complémentaires. Là où les incrédules qui veulent à tout prix réfuter les Écritures voient une contradiction, nous voyons, selon l'enseignement de l'ensemble des Écritures, une merveilleuse complémentarité. À l'origine première du dénombrement d'Israël, de toute évidence, l'Éternel. L'Éternel qui a décidé de châtier Israël pour son bien. Pour son bien, il y a là une nécessité parce que l'orgueil est en train de perdre cette nation. Mais l'intermédiaire, l'agent du jugement, va être la puissance des ténèbres. Deux textes absolument
complémentaire. Nous avons un texte très intéressant dans 1 roi 22, versets 19 à 23, que nous pouvons lire rapidement également. 1 roi 22, versets 19 à 23. Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. 1 roi 22, verset 19 et suivant, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » Mauvais esprit. « Moi, je le séduirai. » Et l'Éternel lui dit, « Comment ?» Eh bien, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras. Tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La souveraineté absolue de Dieu sur la puissance des ténèbres, là, encore une fois, pour juger Akab, qui a été donc le roi le plus abominable du royaume du Nord. Et puis alors, nous avons un texte par excellence qui nous montre ce contrôle de la puissance des ténèbres par Dieu. C'est le début de l'histoire de Job, n'est-ce pas? Avec cette apparition dans la présence de Dieu, de la puissance des ténèbres, qui va... en procureur général, en quelque sorte, réclamer absolument la tête de Job. Non, il n'est pas possible que Job puisse te servir de manière désintéressée. Touche-le et tu verras que son amour pour toi n'est pas inconditionnel. Texte très intéressant. C'est donc, je le redis, avec la permission de Dieu et sous son contrôle constant que ce mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. Et à l'heure où Dieu, dans sa science, dans sa connaissance absolue du cœur de David, estimera que cette formation de base est arrivée à l'objectif fixé par lui, alors lui-même se chargera de mettre un terme à la vie de Saül. Saül sera jugé à cause de son péché. Et ce qui est beau, c'est que jusque-là, je l'ai dit dans notre introduction, David a su, dans ces terribles difficultés, se soumettre au plan de Dieu et résister à Abishai, par exemple, et à d'autres, n'est-ce pas, qui, dans certaines circonstances, lui disaient, mais écoute, tu vois, là, Dieu t'offre une occasion absolument fantastique, tu ne peux pas avoir mieux, Dieu est derrière, et il te suffit d'avancer la main, et puis hop, tu lui tranches la gorge et tes problèmes sont réglés. Et David dit non. Oh, il est tenté. Il va couper un pan du manteau et puis il va être repris dans sa conscience par l'Esprit de Dieu. Il va dire non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel, c'est à Dieu de s'occuper de lui. Et il y a là des indications pour nous. Parce que j'aimerais terminer ce soir en actualisant, parce que c'est ça le but de cette série de réunions, c'est ensuite que nous arrivions sur notre terrain à nous à partir des Écritures. Alors, actualisons. Dieu s'est servi d'un lunatique, lié par un esprit malin, impulsif, terriblement versatile, rongé d'orgueil. En termes psychiatrique, un mélancolique coléreux, ayant des symptômes de psychose maniaque dépressive. Voyez, je me suis un peu penché sur la question. Mais nous nous souvenons de ce que nous avons dit. Pour des raisons liées à l'autorisation de Dieu au niveau de la puissance des ténèbres. Nous le soulignons fortement ce soir. Mais Dieu s'est servi donc de ce personnage
pour former le plus grand roi d'Israël et pour développer en lui le caractère du fils de David. Et je dois dire que le jour où simplement autrement qu'avec mon cerveau, j'ai commencé à comprendre pour mon cœur, pour ma vie personnelle, pour mes relations, le sens de cette histoire, alors cela a été un moment extraordinaire et décisif pour ma vie. Tout simplement parce qu'à partir de là, je comprends que Dieu se serve d'un patron au sale caractère, un Pierre de 18, littéralement, dit le texte grec, un patron qui a une scoliose du caractère. Vous savez bien, hein? Une scoliose du caractère, c'est le terme grec qui est utilisé. C'est pas évident de travailler avec un patron qui a mauvais caractère. Avant d'entreprendre mes études de théologie, j'ai dû, pour des raisons de problèmes de santé très graves, interrompre mes études pendant 2 ans, avec une longue hospitalisation suivie d'un temps, donc 2 années de travail comme secrétaire dans une mairie d'une ville de 10 000 habitants à la frontière du Luxembourg. Et mon grand patron, c'était le maire. Ah, je garde des souvenirs plus qu'émus du maire qui était mon patron, parce que c'était un coléreux. Et le moment que je craignais le plus, c'était le samedi matin, parce que le samedi matin, nous étions tous dans le bureau du maire ou du secrétaire général pour faire le bilan de la semaine et préparer la semaine suivante. Et presque régulièrement, il y avait des dérapages plus ou moins contrôlés liés au caractère de Monsieur le maire, mon patron. Dieu s'est servi de Monsieur le maire pour former le jeune homme que j'étais. Oh, ce n'était pas gai, loin de là. Dieu se sert d'un voisin de chambre impossible. On ne choisit pas toujours ses voisins de chambre, loin de là. Et il est même des institutions dans lesquelles les responsables de la distribution des personnes dans les chambres se font un malin plaisir à prendre la décision de ne pas bouger quoi que ce soit malgré les supplications, parce qu'ils ont une idée derrière la tête, n'est-ce pas ? Il faut que l'on apprenne à vivre avec l'autre. Et ce n'est pas toujours évident. Dieu se sert d'un croyant rétrograde et charnel. Parce que des Saül, dans ce sens-là, il y en a dans la plupart des églises. Dieu se sert d'un croyant rétrograde et charnel, de frères et sœurs difficiles à vivre, pour former ses enfants, pour traiter l'hippopotame moi, pour nous faire perdre nos illusions, notre confiance en nous-mêmes, afin que notre règne disparaisse et que son règne apparaisse. Parce que le corollaire indispensable à que ton règne vienne est que mon règne disparaisse. Et ça, c'est difficile à avaler. Et ce n'est pas un de ces messages qu'on aime et qu'on entend souvent dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. J'ai été très frappé par cette parole de Dietrich Bonhoeffer lorsqu'il dit « Quand Christ appelle un homme, il lui dit, viens et meurs. Viens et meurs. Meurs. » Nous ne pouvons pas nous crucifier nous-mêmes. Et comme nous n'avons pas cette possibilité, il appartient aux autres de le faire à notre place. Et ce qui a fait dire à un homme de Dieu du Québec, que j'ai beaucoup apprécié pour son ministère, « Nous avons à louer Dieu pour tous les frères marteaux et toutes les sœurs clous qu'il met sur notre chemin. » Ça vous dit quelque chose? Vous pensez en cet instant à un frère marteau ou à une sœur clou que Dieu a placé ces derniers temps sur votre chemin. Et vous y voyez un ennemi à éjecter du chemin. Un de ces empêcheurs même d'avancer avec le Seigneur. Comment se fait-il qu'il vienne troubler le cours d'une évolution normale de ma vie? Et Dieu nous dit ce soir, halte-là. De la même manière que j'ai mis un Saül sur le chemin de David pour le former, j'ai aussi mis ce frère clou, cette sœur marteau ou inversement, sur ton chemin pour te former. Parce que notre moi, vous le savez, nous pose beaucoup de problèmes. Quelqu'un écrit, le moi est l'une des plantes les plus résistantes qui croissent dans le jardin de la vie. En fait, aucun moyen humain ne peut la détruire. Au moment même où nous sommes certains qu'elle est morte, elle repousse quelque part ailleurs, plus robuste que jamais, prête à troubler notre paix, à empoisonner le fruit de notre vie. Et c'est André Adoul, dans son dernier remarquable livre, Sa présence, qui dit ceci avec sa verve méridionale aussi, « Le moi qu'on s'emploie à éliminer rebondit toujours comme un bouchon lâché dans l'eau. Plus on veut comprimer le moi, et plus il se montre. Mettez-le au pilori et le voilà sur le trône. Il est si tortueux qu'il réussit même à tirer orgueil des assauts qu'il subit lorsqu'on tente de le déloger. » Nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre moi, quelqu'un s'en occupe. Mais nous devons accepter qu'il s'en occupe. Et c'est là la grande victoire dans nos vies, que d'apprendre à dire, « Seigneur, mes circonstances sont si difficiles. Mais je veux voir derrière cette personne, non pas uniquement le diable, mais je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. » Oh, nous aurons l'occasion d'ici dimanche de le redire de toutes sortes d'autres manières. Quelqu'un écrit ceci, « Il ne peut y avoir de croissance spirituelle qu'à travers la mort à soi. Chaque pas sur le chemin du progrès spirituel sera marqué par les empreintes sanglantes de l'amour propre blessé. » Et vous savez, plus je chemine avec Dieu, plus je me rends compte que dans ma propre vie, mon plus gros problème, c'est l'amour propre. C'est le moi. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Il est si facile d'être susceptible, de défendre ses intérêts, de critiquer, de juger, de tout faire tourner autour de soi. Alors Dieu, dans son amour, organise nos circonstances pour que cette mort, cette crucifixion de la vieille nature, qui est un fait juridique, accompli il y a bientôt 2000 ans sur la croix, soit expérimenté dans ma vie de tous les jours. J'aime à dire que c'est un peu comme dans le mariage. Un certain 10 octobre 1970, j'ai épousé quelqu'un que j'aime passionnément et qui s'appelle Tina.
et qui, je sais, est ici ce soir dans la pensée, dans la prière. Et ce 10 octobre 1970, j'ai juridiquement, officiellement, enterré, crucifié mon vieux moi de célibataire. C'est un fait. C'est vérifiable. Il y a un registre, et sur ce registre figurent des signatures, dont la mienne, dont celle de mon épouse, de nos témoins. Et pourtant, je sais que j'étais encore un sacré célibataire dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi le mariage. Je savais à la fois que j'étais marié, que j'avais enterré ma vie de célibataire, mais j'expérimentais douloureusement dans la pratique la mort du célibataire. Parce que voilà qu'il me fallait penser à ma dulcinée, me préoccuper d'elle, m'occuper plus seulement de moi, n'est-ce pas? Et ça me démangeait de continuer à m'occuper de moi, à vivre dans mes pantoufles de célibataire. Et elle était là pour me rappeler, dit, Maurice, tu es marié maintenant. Hein? Et c'est ainsi que plus notre relation d'amour s'est approfondie au travers de toutes les souffrances qui parsèment la vie du couple, que j'ai pu expérimenter la mort du vieux moi. Et il a fallu parfois des circonstances difficiles. Et en réalité, je sais très bien que quand nous avons des problèmes, mon épouse et moi, parce que le ciel n'est pas toujours bleu, d'ailleurs s'il était toujours bleu, je l'ai souvent dit, ça serait la sécheresse dans notre vie, et nous n'en voulons pas. Mais dans ces moments-là, j'ai l'impression que c'est mon vieux moi de célibataire qui recommence à gigoter, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je sois venu à la croix et auprès de mon épouse pour lui demander pardon. Et que nous reprenions ensemble. Et Dieu se sert des circonstances, de ces Sauls, de toutes sortes de moyens, parfois tellement désagréables, mais pour que l'homme spirituel se développe dans la vie de Maurice Decker. Ceci, c'est donc, nous l'avons vu, cette histoire tendue de David dans sa relation avec Saül, qui nous l'apprend. Demain soir, nous aurons l'occasion de prendre quelques autres exemples dans les Écritures pour bien faire le tour de cette question. Et puis, nous ferons un pas de plus pour continuer aussi à équilibrer, à apporter d'autres touches sur cet enseignement absolument essentiel sur la formation de l'homme spirituel. Il n'est pas de formation qui ne passe d'abord par une déformation. Et ça, nous devons le reconnaître, c'est pas toujours évident à accepter. Mais le Seigneur veut l'inscrire dans nos cœurs, il veut se servir de sa parole pour que peut-être même ce soir, à l'issue de cette réunion, nous puissions dire dans notre cœur, Seigneur, j'ai un peu le sentiment parfois d'avoir combattu contre toi. J'ai eu trop tendance à voir dans telle et telle situation simplement des attaques du diable. C'est vrai qu'il y avait peut-être des attaques du diable. Mais j'aurais dû aussi, simultanément, voir derrière ces attaques du diable, cherchant à m'ébranler, à me faire tomber, ta main souveraine, qui, elle, voulait me faire grandir spirituellement et me voir ma vie transformée peu à peu à l'image de Jésus-Christ. Que notre regard change sur les événements pour que nous devenions de plus en plus hommes et femmes spirituels selon le cœur de Dieu. Nous voulons prier. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier pour cette histoire de David dans ses rapports si pénibles avec Saül. Et nous te remercions, Seigneur, parce que en relisant cette histoire, ce n'est pas à Satan que nous donnons gloire. mais c'est à toi. Nous sommes reconnaissants pour le parfait contrôle que tu as exercé sur cette situation pénible pendant des années, mais qui a servi à préparer le cœur et à former ce grand roi d'Israël que fut David, cet homme de Dieu que fut David, qui t'annonçait, qui annonçait ton fils Jésus-Christ par bien des aspects. Seigneur, donne-nous ce soir, si c'était nécessaire, de nous réconcilier avec nos circonstances et de nous réconcilier ainsi avec toi. Puissions-nous, Seigneur, conduits par ton esprit, te dire aussi merci pour les chemins parfois tellement incompréhensibles par lesquels tu nous fais passer. Tous ces Saül que nous aimerions tant éjecter de notre chemin, mais que tu contrôles et que tu ôteras de notre route quand tu le jugeras nécessaire, parce que nous aurons appris quelque chose avec toi. Tu veux nous accompagner ce soir, bénir notre repos, nous donner de repasser tout cela dans notre cœur. Mais prépare-nous déjà à la soirée de demain, au culte de dimanche. Continue à nous parler, à nous visiter comme tu sais le faire, toi, par le Saint-Esprit, vivant, agissant dans chacun de nos cœurs. Merci, ô notre Dieu, de tout notre cœur, en Jésus-Christ.